Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être ici. Comme le disait le docteur de Fordelem, il y a une grande tradition entre Lille et Gand, et moi j'étais interne à Lille, et donc je venais au moins une fois par an pour échanger sur des idées sur les maladies rares en particulier. Donc on voulait partager un petit peu les résultats sur cette nouvelle thérapie génique, mais avant, rappeler quand même quelques petites choses qui seront peut-être redondantes un petit peu avec les topos précédents. En fait, quand on parle de dystrophie rétinienne, aujourd'hui, enfin, je vais vous parler du Luxturna, de cette thérapie génique sur le gène RPE65, mais en fait, la dystrophie rétinienne, ce n'est pas que RPE65, et finalement, c'est vrai qu'RPE65 concerne un petit nombre de patients. Les dystrophies rétiniennes, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sont très diverses, de pathologies congénitales, mais stationnaires, qui vont soit toucher la vision nocturne, soit toucher la vision du jour, ou de l'autre côté, des pathologies progressives avec des patients, des sujets qui vont naître avec une vision normale ou proche de la normale, et puis qui va progressivement se dégrader, soit se dégrader par la vision nocturne d'abord, puis le champ visuel périphérique pour les rétinopathies pigmentaires ou les formes très précoces de dystrophie rétinienne ressemblant aux rétinopathies pigmentaires, mais se développant plus précocement et plus rapidement, ou bien de l'autre côté, les atteintes qui vont plutôt toucher d'abord la macula. Et c'est vrai que quand on veut développer des thérapies innovantes, on est soumis à cette complexité de la pathologie. C'est pas une seule maladie génétique de la rétine, c'est toute cette complexité. Et par ailleurs, on est soumis au fait que le tissu malade, c'est la rétine. Et la rétine, c'est tout un réseau hyper perfectionné, et plus on en comprend, plus on se dit qu'il y a encore à apprendre, qui est un réseau neuronal, donc des cellules nerveuses, qui sont connectées les unes aux autres pour nous permettre une perception visuelle relativement précise. Et en fait, plus c'est perfectionné, eh bien plus quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, je ne sais pas si on dit ça en Belgique, tourner pas rond, pour essayer de réparer, c'est d'autant plus complexe. Ces pathologies sont hétérogènes sur le plan clinique, mais sur le plan aussi génétique, puisque maintenant on connaît plus de 300 gènes, et non pas un seul, qui peut, quand le code génétique est muté, donner lieu à une protéine qui fonctionne pas bien et donner lieu à toutes ces maladies diverses de la rétine. En fait, ces fonctions, ces gènes qui ont un code génétique modifié qui vont conduire aux maladies rétiniennes, ils sont impliqués dans différentes fonctions cellulaires. Et sur la droite de la diapo, j'ai représenté la cellule très importante pour la vision qu'on appelle le bâtonnet, ou le photorécepteur, qui va d'abord capter la lumière et transformer la lumière après une série de cascades chimiques en signal visuel. Eh bien, il y a différentes fonctions cellulaires qui peuvent être altérées. Et le bâtonnet repose sur une cellule de soutien qui s'appelle l'épithélium, qui elle aussi est essentielle pour que les photorécepteurs se sentent bien. Et en fait, comme on parle de RPE65, eh bien la protéine RPE65, elle est au niveau de cet épithélium. Elle est essentielle, notamment pour quelque chose qui s'appelle le cycle de la vitamine A. Donc en fait, quand la lumière arrive sur les photorécepteurs, elle va être capté par un pigment visuel, et au sein de ce pigment visuel, il y a une petite molécule de vitamine A qui va changer de forme quand la lumière va être absorbée, et c'est ce changement de forme qui va entraîner toute la cascade de la phototransduction. Et en fait, afin que la vision soit un processus continu, une fois que cette vitamine A au sein du pigment visuel a été utilisée, il faut qu'elle puisse être régénérée. Et donc du coup, il y a toute une cascade très très active et très rapide bien sûr, qui va faire que la vitamine A utilisée des photorécepteurs va être transportée au niveau de la cellule de l'épithélium, qui va être en fait la cellule régénératrice de la vitamine A. Il y a toute une série d'acteurs qui vont faire en sorte que cette vitamine A usée, elle retrouve sa forme de départ pour pouvoir de nouveau être activée par la lumière. Et en fait, la protéine RPE65, elle est impliquée dans cette cascade très très précise de régénérescence de la vitamine A afin que, de nouveau, le photopigment ait sa vitamine A photosensible et puis être et puisse être du coup réactivé. Du coup, en fait, quand il y a des mutations sur le gène RPE65, cette régénérescence de la vitamine A usée se fait pas, et donc c'est en cause dans un groupe de maladies rétiniennes, qui sont surtout des maladies rétiniennes qui vont toucher principalement la vision nocturne, mais aussi la vision du jour. Et en fait, il y a deux maladies rétiniennes qui peuvent être en cause quand il y a des mutations sur ce RPE65. On a l'habitude de dire ça, mais je vais me reprendre tout de suite. On a typiquement décrit deux maladies rétiniennes, l'une qui a été appelée l'amaurose congénitale de Leber, et on lui a donné le numéro 2, parce que c'était probablement le deuxième qui avait été caractérisé génétiquement. Donc l'amaurose congénitale de Leber, c'est une forme précoce, très sévère, presque congénitale, de rétinopathie pigmentaire. Et puis de l'autre côté, des mutations sur RPE65, vont être en cause dans une forme un peu plus tardive, pas à la naissance ou pas dans les premières années de vie, de rétinopathie pigmentaire. C'est le numéro 20, RP20. En fait, on sait maintenant que les mutations sur ce gène RPE65 sont responsables, selon le type de mutation, hein, les mutations, c'est des modifications du code génétique, selon le type de mutation, eh bien, ça va donner des maladies plus ou moins sévères qui vont commencer dans la toute petite enfance ou bien un petit peu après, mais toujours être caractérisées par cette séquence vision nocturne très, très altérée. Hein, c'est des enfants qui voient pas les étoiles, qui voient rien du tout la nuit, puis progressivement, des altérations du champ visuel et ensuite une perte de dans les formes sévères, une perte de la vision centrale. Alors en fait, ça se caractérise assez typiquement sur le plan ophtalmologique, hein, ne serait-ce par des examens très simples comme l'examen du fond d'œil ou un examen de la structure de la rétine pour voir l'épaisseur en particulier de la rétine qu'on appelle l'OCT. Si on regarde le fond d'œil de ces patients, un enfant qui vient et dont les parents décrivent une malvoyance surtout dans l'obscurité, bien finalement sur le fond d'œil, on voit pas grand-chose. Et on peut voir quelques petites taches jaunes, mais on voit pas grand-chose. Il faut faire des tests un petit peu plus spécialisés, comme enregistrer la fonction de la rétine par l'électrorétinogramme, pour se rendre compte que cette fameuse rétine qui est donc nécessaire pour que la vision, les images soient visualisées, eh bien l'électrorétinogramme qui va tester précisément la façon dont la rétine fonctionne, notamment les capteurs de lumière, les photorécepteurs, eh bien il n'y aura pas de réponse à l'électrorétinogramme. Et par ailleurs, quelque chose qui est très intéressant, quand on regarde l'épaisseur de la rétine et surtout l'épaisseur des différentes couches de la rétine, comme on peut le voir avec l'OCT, eh bien on s'aperçoit sur l'OCT qu'on a une épaisseur rétinienne qui peut être relativement bien conservée, et notamment une couche profonde qui est la couche des noyaux, qui pour ceux qui voient sur ces diapos, c'est la couche noire. Ici, c'est les noyaux des photorécepteurs. Eh bien, en fait, pendant très longtemps, dans cette rétinopathie liée aux mutations RPE65, eh bien, les noyaux des capteurs de lumière, des photorécepteurs, sont présents. Par contre, il leur manque la partie essentielle pour être photoactivable, où il y a ce fameux pigment visuel et cette vitamine A. Comme il y a les noyaux des cellules, eh bien, en fait, c'était une maladie idéale pendant assez longtemps, en tout cas. C'est une maladie idéale parce qu'on dit qu'il y a une fenêtre thérapeutique où les cellules photoréceptrices sont présentes, mais elles ne fonctionnent plus puisqu'elles n'ont plus de vitamine A à utiliser. Et du coup, l'idée, c'était comme on a des photorécepteurs présents encore, eh bien, si on peut restaurer la fonction de ce gène, si on peut apporter le gène normal, eh bien, probablement, la cascade de visuelle va se refaire, la vitamine A va être resynthétisée, restaurée, et on pourrait rendre de la vision aux patients. Et donc ça, c'était vraiment l'idée, quand il y a eu tous les essais que le docteur Sodi a mentionnés, notamment les essais sur ce chien Briard, on vous remonte Lancelot, qui a exactement la même maladie que chez les humains avec des mutations sur RPE65, ou restaurer le gène par la thérapie génique, on a pu redonner de la fonction visuelle. Sur la diapo, on montre notamment la fonction visuelle par l'électrorétinogramme, où on va, après injection, on va voir comment on fait ça, du gène normal, eh bien restaurer la fonction non seulement des bâtonnets pour notre vision nocturne, mais aussi, dans le cadre du chien, la fonction des cônes qui sont importants pour la vision du jour. Donc tout ça, bien sûr, ça avait commencé par l'identification du gène normal, et pour lequel un de nos chercheurs éminents qui avait créé notre société d'ophtalmogénétique, le professeur Hamel, avait travaillé. Puis la validation de l'approche par thérapie génique chez le chien, qu'on était capable, en amenant le gène normal, de restaurer de la fonction visuelle chez ce chien. Puis des premiers essais chez les humains qui ont conduit à l'acceptation le 19 décembre 2017 par l'Agence américaine du médicament de ce traitement, non plus comme un essai de thérapie, mais vraiment comme une thérapie, un traitement. Très vite, l'Agence européenne a accepté également de reconnaître cette procédure comme un médicament en novembre 2018. Et chez nous, mon patron, qui s'appelle le professeur Sahel, a été un agent très actif pour amener le plus vite possible ce traitement en Europe, et en tout cas en France. Et la première petite fille de 10 ans a été traitée hors États-Unis le 5 décembre 2018 dans notre hôpital au 15-20. Alors, qu'est-ce que avaient montré les études précliniques avant les études avant la reconnaissance du médicament? Eh bien, elles avaient essentiellement montré sur deux tests l'efficacité de la restauration du gène. Un des tests, en fait, on mettait les gens dans l'obscurité avec un test où on va mesurer la sensibilité à la lumière, et en fait, on voyait que après le traitement, les patients retrouvaient une sensibilité à la lumière beaucoup plus importante que avant le traitement. Et un autre test qui a un petit peu révolutionné notre façon de concevoir les essais thérapeutiques, c'était un test de mobilité où on va mettre en fait les patients dans des conditions de luminosité variable dans une pièce avec plein d'obstacles. Et on va regarder un petit peu comment ils sont capables de détecter les obstacles en fonction de l'ambiance lumineuse. Et en fait, ce test des obstacles était fait avant le traitement et puis après le traitement dans les essais thérapeutiques. Et en fait, il avait été démontré après le traitement, les sujets réussissaient à détecter les obstacles beaucoup plus rapidement. Donc tout ça, ces deux essais ont abouti donc au développement de ce produit. Alors la molécule, ça s'appelle le vorétigène néparvonex, qui est en fait donc le Luxturna, c'est la molécule commerciale. En fait, les indications de la Haute Autorité de Santé française, comme je vous disais, qui était la première à appliquer ça hors États-Unis, eh bien ça touche, c'est ce que je reviens brièvement parce que le docteur Sodi l'a déjà dit. D'abord, c'est aussi bien les adultes et les enfants. Donc, je vous ai dit que ça pouvait donner un spectre de maladies assez variables, donc c'est pas uniquement la maladie de l'enfant, ça peut être aussi la maladie de l'adulte. Le prérequis, et on n'assistera jamais assez là-dessus, c'est l'identification génétique. Ici, le Luxturna, c'est amener le gène RPE65, donc il faut avoir vraiment prouvé que la maladie, la dystrophie rétinienne, elle est liée aux mutations de RPE65. Si on n'a pas cette confirmation génétique, de toute façon, amener le gène de RPE65, ça ne marchera pas, ça ne servira à rien. Et la deuxième partie, pour avoir ce traitement, et en fait bénéficier, avoir un bénéfice de ce traitement, c'est qu'il y ait suffisamment de cellules viables, avec les restrictions que le docteur Sodi a dit sur les cellules viables. Quand on fait, je vous disais, un examen des coupes de la rétine, où on va regarder précisément les différentes couches de la rétine, c'est un test, on va dire, structurel. Et donc, on voit les couches noires et blanches, etc. Et donc, on va se baser sur l'épaisseur, notamment de la couche noire profonde, qui est la couche des noyaux des photorécepteurs. Mais c'est assez assez subjectif, si vous voulez. Et donc, alors en France, on n'a pas les recommandations de l'Allemagne, mais en fait, on avait eu, avant que le médicament soit approuvé en France, on avait eu un pré-accord où il y avait des critères beaucoup plus précis que uniquement des cellules rétiniennes viables et des critères très précis qui en fait reposaient sur une des dernières études de phase 3, une des dernières étapes des essais thérapeutiques avant la reconnaissance comme médicament. C'est-à-dire que ces critères sont les suivants. Donc, basé sur l'OCT, hein, l'examen des couches de la rétine, il faut que la rétine soit au moins de 100 microns, qui est déjà assez fin. Donc une certaine épaisseur de la rétine centrale, notamment là où il y a les noyaux des photorécepteurs. Une zone de rétine, quand on examine le fond de l'œil, où il n'y a pas d'amincissement trop important, on dit 3 diamètres papillaires, c'est une certaine façon de quantifier ce qu'on appelle l'atrophie, l'amincissement de la rétine. Donc il faut qu'il reste quand même assez de rétine au centre de la rétine. Et puis un champ visuel qui est à peu près de 30 degrés centraux, pour être sûr qu'il y avait quand même des cellules capable encore de capter un petit peu la lumière. Donc, ensuite, le principe de la thérapie génique, quel est-il ? Donc, en fait, ici, si on injecte juste le gène comme ça dans l'œil, le gène RPE65, ça ne marchera jamais, ça ne rentrera pas dans les cellules. Ce qu'on veut, comme le gène, il est exprimé, il est dans l'épithélium, qui est la couche très profonde en dessous de l'œil, eh bien, il faut que le gène puisse pénétrer dans cette cellule. Et du coup, on utilise des virus. Ici, c'est le virus qui s'appelle virus adéno-associé de type 2. Et ce virus, sur son enveloppe, il a des petits picots, des petites spicules qui vont être reconnus par la membrane de l'épithélium, ce qui va lui permettre de rentrer dans l'épithélium. Ce virus, bien sûr, il est inactivé. C'est un virus qui est impliqué dans le rhume, mais on lui a enlevé sa caractéristique pathogène de donner du rhume pour ne garder que la capacité qu'il a de rentrer dans la cellule. Et par contre, ce virus, en son sein, il a le gène humain. En fait, il a un codage génétique qui permet de fabriquer la protéine humaine RPE65. Et en fait, ensuite, donc bien sûr, on va pas l'injecter juste comme ça dans la cavité de l'œil. Il faut que ça soit sous la rétine. Et donc en pratique, donc bien sûr, tout ça c'est sous anesthésie générale parce que c'est une procédure très très fine, très précise. Il y a des chirurgiens maintenant qui sont très très bien entraînés. Et la chirurgie de la rétine depuis 30 ans a fait tellement de progrès que maintenant c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable étant donné la minutie et la précision. Et en fait, donc tout ça c'est sous anesthésie générale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord enlever et remplacer par du liquide le gel qui est dans l'œil. Ça s'appelle une vitrectomie, parce qu'il faut aller au fond de l'œil, vraiment au fond de l'œil. Sinon, le gel gênerait pour aller vers le fond de l'œil. Et ensuite, donc la particule virale qui contient RPE65, elle est mise dans une seringue. Et puis ensuite, en fait, le chirurgien va faire un petit trou dans la rétine pour aller sous la rétine, entre la rétine et l'épithélium, pour faire une petite bulle et puis pour injecter très très doucement cette préparation virale. Alors, il y a des vidéos pour ceux qui peuvent voir où on voit la bulle, mais hier les vidéos elles marchaient pas bien, donc j'espère que ça va marcher. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui doit être fait tout tout doucement. Et en pratique, nous, on a des très bons... Enfin, en général, les centres choisissent leurs meilleurs chirurgiens. Et donc, le chirurgien qui fait ça est très adroit. Et par ailleurs, il y a toujours... En l'occurrence, nous, c'est un interne qui va aller pousser très, très doucement la seringue parce qu'on peut pas en même temps tenir l'aiguille et la seringue pour mettre les choses juste sous la rétine. Voilà. Donc, très, très lentement. Et donc, après, ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi la capacité d'avoir un OCT pendant l'opération. Et l'OCT, je vous disais, on voit toutes les différentes couches de la rétine. Et comme ça, on peut vraiment voir précisément comment la bulle va se former et être bien sûr qu'on est entre la rétine et l'épithélium et pas en dessous parce qu'il ne faut pas aller trop loin dans la rétine. Voilà. Donc ça, si ça veut bien, il y a une dernière vidéo qui montre encore la petite bulle qui va se former sous la rétine. Alors en fait, l'idée, c'est que on peut pas décoller toute la rétine, on peut pas traiter toute la rétine. Donc on va essayer de traiter le centre de la rétine parce que c'est le plus important, puisque c'est la vision centrale, la vision précise. Et on va essayer de traiter un petit peu plus aussi la partie supérieure, parce que c'est avec la partie supérieure qu'on voit en bas. Et du coup, le champ visuel du bas, il est très important parce que c'est pour des détecter les obstacles, etc. Alors, il y a un de nos étudiants qui a ensuite... Alors, par contre, j'ai oublié de dire, c'est que idéalement, le chirurgien, il essaye de mettre l'aiguille, en fait, en haut, le long de ce qu'on appelle l'arcade vasculaire temporale supérieure, pour que, avec la pesanteur, la bulle, elle aille bien au centre et un petit peu en bas. En fait, ce qu'il dit aussi, c'est que, comme c'est une chirurgie très, très précise, parfois, la bulle, elle va un petit peu où elle veut, hein. Donc, c'est pas aussi... contrôlable que ça. Et puis, en fait, après, on peut voir précisément où la bulle a été placée au niveau de la rétine. Alors, dans le traitement, bien sûr, maintenant que c'est un traitement, on va traiter les deux yeux. Et en général, il y a à peu près une semaine jusqu'à 14 jours entre l'injection pour les deux yeux. On choisit, en général, en accord avec le patient, par quel œil on veut commencer. Actuellement, à Paris, dans notre centre des 15-20, 12 patients ont été opérés, donc 24 yeux, puisque les deux yeux ont été traités. Et en fait, la première chose qu'on va poser aux patients, c'est leur ressenti. Et en fait, le ressenti, pour tous les patients âgés, le plus jeune, je crois que c'est maintenant 4 ans et demi, jusqu'à à peu près 30 ans, le ressenti est assez positif pour tous les patients. Et ce qu'il décrit vraiment, probablement une semaine, déjà jusqu'à une semaine après la chirurgie, c'est qu'ils voient mieux dans la pénombre et qu'ils ont l'impression que tout paraît beaucoup plus lumineux. Certains, c'est assez touchant, hein, une des patientes m'expliquait qu'elle, depuis qu'elle est née, elle voit pas dans le noir. Donc au début, elle a besoin d'analyser ce qu'elle voyait de nouveau parce que c'était quelque chose de tellement nouveau qu'elle pouvait pas me dire si elle voyait mieux dans l'obscurité puisqu'elle avait jamais vu dans l'obscurité. Ils ont moins de difficultés à se déplacer et les deux premières petites filles qui avaient été traitées chez nous, dont celle il y a le 5 décembre 2018, portaient en fait une petite lampe parce qu'elles savaient frontale, parce qu'elles n'arrivaient pas à se déplacer spontanément, mais pour avoir une meilleure lumière. Et en fait, une semaine après la chirurgie, la lampe frontale, elle est restée dans la chambre et elles ne l'ont plus prise du tout. Il y a quand même, c'est une chirurgie délicate, donc il y a quand même des complications, hein. Le risque zéro en médecine n'existe pas. Et en fait, tous les patients, au départ, avaient une petite opacité de leur cristallin, ce qu'on appelle une cataracte de dessiccation, qui a été complètement réversible après. Il y a eu 3 patients qui ont eu des petites déchirures à la périphérie de leur rétine, secondaires à la chirurgie, qu'il a fallu traiter par laser. Et aussi... un patient, un des plus jeunes, qui a fait un décollement de rétine un mois après la chirurgie du deuxième œil. Ce décollement de rétine, c'est traitable. Il a été dépisté tout de suite, il a été traité. Et du coup, son acuité visuelle est récupérée de façon tout à fait satisfaisante. Ce qu'il faut aussi, et surtout parce que on a dit l'indication, c'est les enfants et les adultes. Mais les enfants, en général, hormis les maladies rares, on fait pas beaucoup de chirurgie de la rétine. Donc, il y a des précautions à prendre supplémentaires. Et on s'est rendu compte qu'il faut pas se frotter les yeux, hein, après la chirurgie. Et on faisait pas forcément systématiquement attention à ça. Et donc, maintenant, les patients ressortent avec une petite coque transparente pour éviter, en plastique, hein, pour éviter de se frotter les yeux. Donc, il y a quelques résultats fonctionnels. Donc, on sait que l'acuité visuelle peut remonter un peu, c'est pas forcément, donc la capacité à lire précisément les lettres, c'est pas forcément ce qui est le plus spectaculaire. La plupart des patients ont une meilleure acuité visuelle, sauf quelques-uns. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est la récupération de la sensibilité à la lumière, notamment dans l'obscurité. Tous les patients avaient une amélioration. Ici, j'ai les résultats que de 9 patients, puisque les trois autres ont été traités plus récemment. À Paris, on n'a pas le même test de mobilité que ce qui était fait pendant les essais thérapeutiques. On a quand même voulu, sur les 10 premiers patients, faire des tests de mobilité. Il y a une plateforme avec une rue artificielle où on peut mettre des obstacles divers et variés. Et en fait, je vais les commenter, montrer quelques vidéos parce que c'est finalement là-dessus que c'est un petit peu le plus spectaculaire. Où on voit, alors il y a les vidéos de la deuxième petite fille quand elle a été traitée, avait 9 ans, où en fait, donc c'est comme une rue artificielle où il y a des bandes blanches sur le sol, il y a des murs, il y a des plots oranges, etc. Et puis en fait, la petite fille, il faut qu'elle essaye de pas se cogner contre les murs, pas se cogner contre les obstacles, et essayer de traverser cette rue. La vidéo marche pas très très bien. Cette rue le mieux possible. Voilà. J'ai enlevé des images par rapport à hier, mais ça ne marche pas mieux. Voilà. Ouais, je sais. Je suis désolée, la vidéo passe pas très très bien. On va la voir. Donc on fait ça en général juste avant la chirurgie, enfin quelques jours avant la chirurgie. Et puis ensuite, les patients sont revus à 1 mois et à 3 mois. Et en fait, à 1 mois et à 3 mois, les patients ont beaucoup plus d'assurance pour des intensités lumineuses très très faibles et arrivent à trouver beaucoup mieux l'obstacle. Désolée, je pensais que ça allait mieux passer. Voilà. Et donc ça, c'est vrai aussi, on va voir si cette deuxième vidéo, ça fonctionne mieux. C'est vrai aussi pour les patients qui sont plus âgés. Là, c'est une jeune femme de 23 ans. Et ça, donc, oui, ça marche mieux là. Ça, donc, c'est le test de mobilité avant la chirurgie. Donc, elle voit qu'il y a éventuellement un obstacle en haut, mais elle va très, très lentement parce qu'elle a vraiment du mal à détecter les différences. Donc, c'est surtout un parcours avec des obstacles contrastés en noir et en blanc. Et puis un différent, et voilà. Et donc ça, c'est après la chirurgie où là, elle a beaucoup plus d'assurance et elle peut marcher sur le passage piéton sans qu'on la tienne et sans moins d'assurance. Donc en fait, pour évaluer ça plus spécifiquement, on va compter le nombre de fois que les patients se sont rentrés dans les obstacles ou la rapidité à laquelle ils ont réussi à faire le parcours. Et pour l'ensemble des patients, au fur et à mesure des visites, soit avant la chirurgie, soit après la chirurgie, il y a eu une plus grande assurance et une plus grande rapidité pour faire ce parcours de marche, ce parcours d'obstacle, que ce soit à des luminosités très faibles, à de luxe par exemple, où c'est comme si c'était une journée de pleine lune, ou quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Voilà, une mobilité beaucoup mieux. En fait, ce dont on se rend compte quand même, et ça c'est tout à fait cohérent avec les études qui ont conduit à la reconnaissance de ce traitement, c'est que les performances visuelles sont vraiment significatives après chirurgie pour les faibles luminosités. Par contre, c'est peut-être un peu on se rend compte que dans les lumières du jour, la différence, notamment sur la mobilité, est un peu moins forte qu'avant la chirurgie. Voilà, donc aujourd'hui, en France, il y a 4 centres qui sont impliqués dans cette thérapie. Maintenant, il y a des centres aussi en Allemagne. Ça vient dans le reste de l'Europe, avec des discussions, bien sûr, à chaque fois avec les autorités de santé, etc., notamment pour les remboursements. Andrea a posé la question du prix. On a de la chance en France parce que la sécurité sociale joue le jeu, mais en fait on a une période d'évaluation de 5 ans où ils veulent que l'on collecte toutes les données sur tous les patients qui auront été traités, parce que bien sûr à 5 ans ils vont rediscuter avec la compagnie qui commercialise le traitement, hein, c'est pour pas la nommer, c'est Novartis, et après peut-être il y aura, on espère, des rediscussions sur le coût du médicament pour que le plus de patients possible puissent en bénéficier. Donc voilà, alors après la question que l'on peut se poser, c'est que ça c'est la première thérapie génique. Donc, comme je vous le disais, ça nous a donné vraiment un énorme espoir. Et moi, je retiendrai toujours ce 19 décembre 2017, où la première fois une agence du médicament dans le monde reconnaît le premier médicament de thérapie génique. Mais ça correspond juste à RP65 pour l'instant. Le docteur Leroy va vous parler des autres essais de thérapie génique. On espère que tous ces essais de thérapie génique vont avoir la même histoire avec succès, même si chaque maladie est différente. et la maladie l'IARP65 est différente des autres maladies. On espère aussi, ici je vous ai mis un diagramme de nouveau de tous les gènes qui sont associés aux maladies rétiniennes. Est-ce qu'un jour on aura un traitement à la carte pour chaque maladie rétinienne? On ne le sait pas. On sait aussi que, comme on l'a dit, comme le docteur Sodi a dit, pour que la thérapie génique fonctionne, il faut que les cellules soient encore présentes. Et donc, la thérapie génique s'adressera pas à tout le monde. Et il y a d'autres stratégies qui sont en développement. Vous allez entendre de la rétine artificielle, il y a la médecine régénérative, il y a les cellules neurotrophiques, il y a l'optogénétique. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont à venir, on l'espère. Merci de votre attention.